Rectangle. Le Record Store Day.
Bonjour, c'est le Rectangle Store Day qui démarre cette semaine belge sur Radio Rectangle. C'est le Rectangle Store Day qui poursuit sa tournée générale chez les meilleurs disquaires belges. Aujourd'hui, trois rencontres sur des modes très différents avec des personnages atypiques, totalement passionnés. Nous voyagerons à Mons chez Alive Records, à Châtelet chez Phonophile, et on démarre par un duo avec Gian et Michel pour la boutique Taille 33 à Louvain-la-Neuve.
Ouais, là, s'il te plaît.
Merci. J'ai beaucoup écouté ça.
Moi, j'étais ado à l'époque.
Les années 90, c'était bon.
Salut, bonne journée. Salut.
Au revoir.
Ouais, c'est le prix.
C'est 1€.
Celui-là est à 1€. Tu peux le prendre pour 1€. Ouais, donc c'est Michel et Diane.
Michel et Diane.
On est associés ici pour le magasin Taille 33. On a ouvert il y a 3 ans, ici à Louvain-la-Neuve, dans la galerie Saint-Hubert. Et voilà, à la base, on travaillait tous les deux dans un grand magasin. On était disquaires dans un grand magasin.
Qui n'est pas très loin d'ici.
On s'est rencontrés comme ça, en fait. Il y a, c'était en 2007, un truc comme ça, une dizaine d'années.
2009.
Ok. Et donc, ce qui était marrant, c'était déjà, à l'époque, on se disait, ce qui serait marrant, ce qui serait vraiment bien, c'est d'ouvrir notre propre magasin. Et puis vraiment.
On s'est à pas perdu de vue parce que j'ai changé de travail.
Ouais, c'est ça.
Puis quelques années après, en 2013, début 2013, il m'a recontacté en me disant ouais, j'ai un super projet de magasin, est-ce que tu veux te lancer avec moi? Et voilà, je me suis lancé avec lui. Le projet a démarré en janvier, puis on a ouvert en juillet. 2013. Et... Ouais, l'objectif c'était de vendre forcément du vinyle et plutôt du rock alternatif, puisqu'on était tous les deux dans le milieu du rock alternatif. On a tous les deux musiciens, on a tous les deux joué dans des groupes. On voulait vendre des choses qu'on ne trouvait pas ailleurs dans la grande distribution, quoi. Comme dans cette grande chaîne pour laquelle on a travaillé.
Donc Michel, lui, a un label de hardcore. Et, il est à fond dans le punk hardcore et il a même organisé énormément de concerts ici dans le magasin.
Ça s'appelle Eye for Us Records. Donc, j'ai lancé ça en 2007 et là, j'ai fait... La période où j'ai un peu laissé tomber, mis ça sur le côté, mais j'en suis à la 50e sortie en presque 10 ans. Quoi. Enfin, moi j'écoute de la musique, je suis fan de rock, de metal, de punk depuis que j'ai 12 ans. Quoi. J'ai commencé avec Nirvana, puis j'ai enchaîné, et j'ai 36 ans, donc ça fait...
Ouais, on est tous les deux musiciens. Ouais.
Moi je ne joue plus pour l'instant, mais Gene il a son projet Freaks.
Ouais,
qui
c'est
continue,
ça.
Quoi.
Que je continue, qui met un peu sur le côté aussi, en suivant ce que je dois faire. Mais là, c'est vrai que pour le magasin, ça nous a pompé pas mal de temps. Quoi.
Ça, c'est un label italien. Et donc, le mec du label est venu jouer au magasin il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un petit label indépendant aussi, punk hardcore. Et le mec qui tient le label fait des concerts en acoustique. Et donc, on l'a fait jouer ici au magasin il y a quelques mois. Dès qu'on a la possibilité de faire jouer des gens que je connaissais, enfin qu'on connaissait, on faisait quoi même. On a fait jouer des groupes là dans le fond du magasin, configuration complète, électrique. Ça faisait du bruit, mais on l'a fait,
tout,
quoi.
Ouais, on sort tous les meubles, tout est mis sur des roulettes, on sort tous les meubles.
Le magasin était vite rempli, mais on était super contents, on s'amusait bien. Quoi.
Ouais, c'est clair qu'on s'amusait bien.
Bah, l'idée, c'était de trouver un emplacement plus grand, déjà, parce qu'ici, on était un peu à l'étroit. et d'être plus visible aussi.
Ouais, et d'avoir un stock plus pointu aussi.
Un stock plus pointu et avoir un public plus pointu aussi qu'on trouvera à Bruxelles. Là, on a trouvé un super endroit.
Ouais, voilà.
Chance, on a vraiment tombé dessus et le propriétaire accepte de me prendre tout de suite. Et donc, c'est chaussée d'Ixelles, dans le bas de la chaussée d'Ixelles, près de la
Tout près de la place Fager, en fait. Vraiment super bien situé avec 90 mètres carrés en rez-de-chaussée et 80 mètres carrés en sous-sol qui nous permettrait d'avoir un bureau et une vraie réserve. Quoi, parce qu'ici, on a 40 mètres carrés, tout compris, réserve avec, donc ça fait un peu peu. Quoi.
Alors, ce sera chaussée d'Ixelles 331. KXL, 50 XL.
Donc c'est taille 33, on garde toujours le même nom. On fait une inauguration le 7 mai avec un concert de Chris Dane et suivi d'un set DJ de Jacques de Pierrepont qui vient mixer pendant 2 heures. Que demander de plus? Ah oui, et il y aura des bières aussi, gratos pour les gens qui viennent. Ouais, là, c'est vraiment un tout autre niveau.
On part pas de rien, on a une certaine expérience maintenant de gérer un magasin seul. Et là, c'est la prochaine étape.
Mais bon, en même temps, on n'a vraiment aucune prétention. On arrive à Bruxelles comme ça. Enfin, il y a tellement de chouettes magasins qu'on aime bien et tout. On arrive là vraiment en se disant, on va essayer de créer un endroit d'échange culturel avec des gens passionnés, sans aucune prétention, quoi. C'est vraiment arrivé là-bas.
On ne peut pas se prétendre d'être des grands disquaires.
Non, du tout, on en apprend tous les jours. Les magasins
existent
depuis 3 ans,
ouais, tout à fait. Les magasins à Bruxelles qui sont là depuis 30 ans.
Exactement, on apprend tous les jours.
Donc c'est vraiment... fait notre mieux.
Voilà,
pour
exactement.
Avoir un bon stock et avoir d'achats de relations avec les gens.
Je pense qu'on a mal ciblé le goût des gens ici sur Louvain-la-Neuve. On pensait qu'il y allait avoir plus de personnes qui étaient attirées par le rock, etc. Il y en a, mais c'est toute petite partie en pourcentage de
la population de Louvain-la-Neuve.
Oui, et de notre clientèle, quoi. Et en fait, c'est vraiment un commerce de niche, mais à ce point-là, je ne m'en rendais pas compte, parce que nos clients, ils viennent du Luxembourg, de la Louvière, de Bruxelles, Charleroi. Et très peu de Louvain-la-Neuve. Du coup, quel était l'intérêt de réellement rester ici si vraiment on profite pas des gens de passage du tout. Et il se passe, il y a un super bar ici à côté qui est ouvert il y a un an et demi qui s'appelle le Backstage et il faudrait qu'on sert tous les mardis. Il y a pas beaucoup de monde, quoi. Il y a vraiment personne et c'est gratuit. Il y a un festival qui est organisé tous les étés ici à Louvain-la-Neuve dans la ferme du Biérot à l'extérieur avec des scènes à l'intérieur qui est gratuit. Il y a personne, quoi. Il y a absolument personne. Il se passe énormément de choses, mais les gens sont enfin les étudiants, parce que c'est quand même la population principale de Louvain-la-Neuve, sont dans les bars ou enfin
c'est
ça.
Ils sont pas assez curieux, quoi.
Ils sont pas assez.
Quand les têtes d'affiche viennent, il y a des gens à la ferme du Biérot. Sinon, pour les petits groupes.
Ouais, mais est-ce que ce sont vraiment les étudiants qui y vont? Je pense pas, quoi. C'est dommage de ne pas être assez intéressé par la culture. Moi, je trouve que c'est comparé à quand moi j'étais adolescent, je traînais tout le temps dans les disquaires, j'allais voir un maximum de concerts, je posais énormément de questions, j'essayais de savoir ce qui se passait vraiment musicalement. Ouais. Maintenant, c'est plus du tout pareil, quoi.
Je le sens par rapport avec mes contacts, par rapport à mon travail, on a beaucoup de jeunes.
Mais c'est surtout
beaucoup de jeunes collègues. Ces gens-là sont plus trop intéressés par la musique, aller au concert, acheter des disques. Il y a vraiment une évolution en 15 ans. Il y a 15 ans, j'étais étudiant à Louvain-la-Neuve. Il y avait des concerts dans les cercles. Il y avait les fêtes de la musique où il y avait des concerts hardcore metal dans les cercles.
Mais il y a encore ça. Hein. Mais c'est
très rare.
C'est vraiment
aussi, par rapport à la musique. Maintenant, c'est le 20 avril. Ici, ça s'appelle Awaken Spring. Il n'y a que des groupes de pop, d'électro, de hip-hop. Tous des genres qui sont plus commerciaux, mais le rock dur, il a disparu, quoi. Toute la scène plus indépendante a du mal à survivre ici.
Enfin, maintenant, dans ton label, tu as aussi des groupes qui sont un peu électro, électro-métal, etc. Le noyau, je pense que la ligne rouge, c'est la musique alternative, quoi. Ça peut être de la pop, enfin de la pop entre guillemets, enfin ce qui est alternatif. C'est ce qui rentre pas dans des codes, quoi. Donc ça doit pas forcément crier et être quelque chose de violent avec des poulets égorgés pendant les shows. Mais c'est des choses alternatives, quoi. Indépendantes, alternatives et qui doivent être amenées aux gens, quoi. qu'on ne peut pas trouver soi-même ou en allumant la radio ou en cherchant sur Internet ou alors à moins d'aller dans des sites vraiment super spécialisés. Quoi.
Se faire découvrir justement cette scène-là qui est, dont on parle très peu et c'est aussi super d'avoir des contacts avec des gens qui sont accessibles avec qui on peut vraiment travailler. C'est vraiment travailler avec des gens qui sont passionnés. Quoi.
Je pense que c'est un peu le rôle de tous les disquaires indépendants en fait. Hein. Tous les disquaires indépendants, à moins qu'ils fassent ça, on ne fait pas ce métier pour gagner, pour être riche, quoi. C'est pas possible. C'est un truc qui est pas, ça va pas ensemble, quoi. C'est juste, c'est, si, pour être riche culturellement et pour se nourrir de ça, quoi. Mais pas pour avoir des milliers d'argent. S'il n'y a pas des gens comme nous ou des salles de spectacle qui programment des groupes pas connus et qui essayent de les faire découvrir, ben la culture s'arrête à Énergie et ce genre de radio super mainstream et qui n'est pas du tout représentatif de ce qui se passe dans le comportement et dans la mentalité des gens dans la société, quoi. C'est juste quelque chose qui est faux, quoi. Ouais, bah ici déjà pour parler des écuries de la ferme du Biérot, donc il y a la ferme du Biérot dans lequel il y a des concerts aller un peu plus mainstream, parfois moins. Et par contre, il y a vraiment un endroit super alternatif qui est les écuries du Biérot, où là, il y a vraiment des concerts punk, mais punk dans tous les sens du terme, quoi. Ça veut dire c'est une démarche, c'est un peu comme le rock'n'roll, c'est une attitude, c'est vraiment punk dans la démarche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de...
Des groupes qui sortent de la norme, quoi.
Ouais, d'office. Sinon, mais ça c'est vraiment super alternatif, quoi. Ouais. Mais sinon, il y a des endroits où on voit des concerts, le Magasin 4, le Trix, par exemple, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le VK. Le VK, c'est tous des endroits où on voit des choses.
Des maisons des jeunes aussi, moi je m'en souvent voir des concerts en maisons des jeunes. C'est plus
ouais,
en
les
Flandre,
maisons
parce
de jeunes.
En Wallonie, il n'y a plus énormément de concerts. Mais en Flandre, il y a des concerts en maisons des jeunes tous les week-ends, quoi. J'étais encore dimanche au Belvédère. Ouais. C'est déjà des plus grosses salles, quoi. Maintenant, toutes les maisons des jeunes, elles ont moins de budget, elles n'organisent plus trop de concerts. Avant, il y avait des concerts à Rix Sansart, il y avait des concerts tout le temps, au Braine-l'Alleud tout le temps. Et maintenant, il y en a quand même vachement moins.
Je pense à deux, trois... Pour rester dans quelque chose qui est quand même récent, soit tu as un morceau d'Electric Noise Machine. Qu'est-ce qu'on pense?
Ouais, pourquoi pas, ouais.
On peut passer à un Electric Noise Machine. Donc explique un peu peut-être qui est ce groupe.
Electric Machine, c'est un groupe basé à Bruxelles, avec des membres qui venaient à la base de groupes hardcore, qui jouaient dans les années 2000, donc je sais pas si Archangel ça te dit quelque chose, Death Before Disco, qui est un groupe néerlandophone. Et donc, j'ai déjà des gens qui sont un peu plus âgés, mais ils ont décidé de former un nouveau projet un peu particulier, qui mixe hardcore, électro, et avec une formule trio. Donc juste une batterie, une basse, et un chanteur qui joue aussi du clavier. Et donc ils ont trouvé un style assez original et ils ont sorti un EP l'année passée sur mon label et sur le label Black Blasset Records, je sais pas si t'as dit quelque chose, aussi un petit label indépendant à Bruxelles avec qui je m'entends très bien. Et donc on a sorti en coproduction cet EP et on peut passer le morceau Ends alors, qui est je pense le deuxième titre de l'EP. Ouais, c'est celui-là. Ah, wow. Une chouette pochette, ouais, avec un gars qui s'est fait tabasser.
Qui s'est percouvé.
C'est véridique.
Qui s'est fait quoi?
C'est un ami du groupe, quoi. Il s'est bagarré, il avait le crâne ouvert. Il s'est fait suturer, ils ont fait une photo. Ils ont retravaillé la photo pour la pochette.
Go!
Châtelet, rencontre avec Philippe chez Phonophile.
Moi, je suis là depuis un an et quatre mois. Comment ça a démarré, en fait, je vendais mes vinyles et mon matériel IFI à plusieurs magasins à Bruxelles. Tous me disaient, toi, tu as la capacité de faire ce magasin à Charleroi. Tu es un des seuls à pouvoir le faire financièrement et tu as la force physique, tu as le matériel derrière, tu as tout, tes techniciens IFI, tu vois, tu as toutes les compétences. Donc tous m'ont poussé petit à petit. L'un dans l'autre, ça m'a trotté dans la tête pendant 5-6 ans, mais moi je faisais une fixation sur Charleroi. Moi j'adore Charleroi, je suis de Charleroi, je faisais une fixation sur Charleroi. Et puis c'est la famille qui m'a dit, mais c'est débile, Philippe, Châtelet c'est mieux que Charleroi pour le moment. C'est la guerre là-bas, on ne sait pas se garer. Ça va être, puis un jour la pièce est tombée, je me dis, mais après tout c'est la famille qui a raison, quoi. Ici c'était une boucherie des années 60, ici il y avait, tu vois, la moquette est mise parce qu'il y avait une chambre froide avec des murs comme ça. Tu vois, avec les portes bouchées, tu vois. Et c'est moi qui fais tous les travaux de ces trucs-là, quoi. C'est comme ça que j'ai su faire le magasin, c'est que j'ai fait tellement de travaux dans ma carrière, en 30 ans, alors que j'étais à la base peintre et sculpteur. J'ai laissé tomber ça, quoi, tu vois. Et comme le magasin s'est tout de suite séparé en deux, IFI et vinyle, ça a drainé quand même pas mal de monde. En plus, on sait d'Internet maintenant, hein. Je suis assez actif sur Facebook. Pas assez, malheureusement, je devrais l'être encore plus, mais Internet a drainé un certain type de clientèle, le bouche-à-oreille draine un certain type de clientèle, et il y a une quantité de collectionneurs de vinyles dans la région de Charleroi, c'est affolant. Moi, je savais que j'étais pas tout seul, hein, puisque ça fait 30 ans que je stockais 10 000 vinyles en permanence chez moi, mais tous les amateurs de vinyles de la région qui passaient dans les deux magasins en bas, chez Discosaurus ou bien chez Imagine, de nouveau passe chez moi, ça fait partie du circuit. Souvent ils font même les deux en même temps, et même les Bruxellois, quoi. L'organisateur de la galerie Ravenstein, la grosse foire à la galerie Ravenstein, ben, il est passé la semaine dernière avec sa femme japonaise, et ils m'ont acheté des trucs pour eux pour retourner au Japon. Tu vois, on se contacte l'un l'autre, il est venu m'apporter les nouvelles affiches, les nouveaux flyers. Le vinyle est moins cher qu'avant. Ça, c'est une idée fausse que généralement on véhicule dans le grand public. C'est assez paradoxal. C'est des études dans le rock et folk et tout ça qui m'en ont fait prendre conscience, en fait. Et ils font des comparatifs dans le rock et folk pour les instruments de musique avec le SMIC des années 70 et le SMIC actuel en France. Et en fait, quand tu commandais un Impulse de John Coltrane, double album ou même un truc, à l'époque, dans les années 70, tu devais débourser 690 francs belges pour un Coltrane. 690 francs belges, c'était une journée de travail complète, quoi. Tu vois, maintenant, c'est comme si les gens sortaient un 150 euros pour s'acheter un album de jazz. Les majors qui rééditent les Beach Boys, les Beatles, ont amorti le catalogue depuis des années. Par contre, quand ils font des très belles choses, ils les font payer au public, mais le prix fort, quoi. Et ça, c'est dégueulasse. Par contre, oui, non, ça c'est dégueulasse, parce que il pourrait relancer encore plus le vinyle, le rendre plus attractif. Il y a aussi deux types de musique. Il y a un bouquin fantastique qui s'appelle les 140 disques alternatifs de rock. Ça s'appelle Ici et ailleurs, la collection. Et il y a une préface là-bas sublime qui décrit justement ce scindement en deux de la musique, la musique pour musiciens et pour amateurs de musique, qui est véhiculé par les musiciens, par les disquaires professionnels, par les amateurs de musique, par les collectionneurs, par les trucs, et la musique commerciale, qui a pour seule fonction de faire de l'argent. Mais ça, il fallait bien qu'ils se plantent, hein, parce que la musique, ça n'est pas fait pour faire de l'argent, hein. C'est fait pour faire découvrir quelque chose, du bonheur aux gens. Tu comprends ce que je veux dire ? Si tu attaques les gens en leur disant « on va vous faire dépenser de l'argent », et si c'est ben, « le mec ne va pas acheter hein. », j'ai beaucoup d'étudiants de la ville. Il faut déjà des curieux à la base. Hein. Mais c'est incroyable. Filles, garçons, que ce soit... Ça pousse le magasin, ça vient voir. Souvent, c'est calé financièrement qu'ils font. Et puis, c'est pour ça aussi que je fais de la fille de seconde main. C'est parce que c'est très dur à faire, hein, ce que je fais là. Ça, c'est vraiment une partie vraiment dure physiquement de mon métier. C'est la partie IFI. Mais c'est... Parce que dans la région de Charleroi, si je veux encourager les gens à réécouter du vinyle, il faut que je propose des petites chaînes IFI avec ampli, entrée phono et platine. Parce que sinon, en premier abord, c'est très difficile de faire confiance à un petit magasin de seconde main comme ça, qui, tu vois, aller au fin fond de Châtelet. Après, quand tu viens deux, trois fois dans le magasin, tu te rends compte que voilà, il y a 30 ans d'expertise derrière, que je suis lié à un labo technologique à Jumet, que je travaille avec ce monsieur-là depuis 30 ans, et que donc, les appareils sont tous démontés, remontés à fond les cartons. Seulement, c'est toujours très difficile. Et puis, il y a une question de budget aussi. Un gros ampli des années 70, avec une grosse platine et une belle paire d'enceintes en bois, c'est plus onéreux, malheureusement, pour eux, leurs petits appareils tout en un, souvent, au bout de 6 mois, tombe en panne, c'est du made in China, il n'y a aucun moyen de réparer, et au bout de 6 mois, leur truc à 150€ vaut 10 euros. Quoi. Tandis que tu t'achètes un ampli des années 70, il ne fera que prendre de la valeur. C'est le même rapport qu'il y a entre le vinyle et la musique dématérialisée. Quoi. Les gens en ont marre quoi, de ces trucs à 150€ en plastique. Mais oui, il y a une frange de la population qui n'en veut plus. Je n'étais pas tout seul dans le cas, et ça je le savais. Tu vois, moi je ne vais pas dans ces magasins, je n'achète pas dans ces magasins, et je ne fréquente pas les grands magasins, même d'un point de vue alimentaire, parce que je ne m'alimente pas comme ça. Mais cette vie alternative, elle arrive en Europe, elle se développe en Europe, en Italie, en Allemagne, en Belgique un peu, parce qu'on est petit et en Wallonie, c'est assez dur. Quoi. Il y a deux mondes dans la musique. Il y a la musique commerciale que je ne critique absolument pas, et puis il y a la musique alternative, et mon magasin fait partie de cette musique alternative. Et ça veut dire aussi que je dois dire ça en étant beaucoup plus complet dans mes recherches que le simple disquaire commercial. En fait, ce qui me passionne dans mon métier, c'est avant tout l'histoire de la musique. Ça, c'est un truc essentiel que je n'arrêterai pas de dire et de raconter. Ce qui est essentiel dans la musique, c'est l'histoire de la musique. C'est comme ça qu'un disquaire doit fonctionner. Et c'est ça qui, moi, me motive tous les jours. C'est ça qui fait que je range mes disques à la vitesse de l'éclair, parce que je suis tellement pressé d'aller voir, de fouiller, de gratter. Et l'histoire de la musique, c'est quoi ? C'est savoir ce qu'a écouté Bowie. Bowie a écouté Billie Holiday. Qu'est-ce qu'a écouté Billie Holiday ? Billie Holiday a écouté Louis Armstrong. Qu'est-ce qu'a écouté Louis Armstrong ? C'est infini. L'histoire de la musique est infinie, mais c'est passionnant parce que ça regroupe, ça fait ça crée des familles. C'est vraiment ça. Ça, c'est passionnant pour moi. Et pour moi, ça, c'est l'essentiel. Et un disquaire alternatif, c'est ça. C'est quelqu'un qui, quand il voit que le jeune vient chercher un YouTube parce qu'il aime YouTube, mais ce que tu dois savoir, toi, c'est qu'est-ce qu'a écouté YouTube ? Alors là, le jeune va se dire, ah, il y a autre chose que le fait d'écouter U2. U2, il est devenu grand parce qu'il a écouté encore des mecs plus grands. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, là, tu les fais progresser dans leur bien-être et dans l'apport de la musique. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis, on est un lien. C'est ça, c'est que les gens ont perdu le lien avec les grands magasins, avec la musique dématérialisée. Surtout avec la musique dématérialisée, c'est incroyable. C'est que déjà, ils perdent un lien entre eux, c'est déjà incroyable. Mais en plus, tu perds un lien essentiel entre le monde de l'art. Tu vois, c'est ça. Tout Internet, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'Internet, on perd le lien entre l'artiste et les gens réels. C'est un problème. En fait, le problème que je te soumets sur l'histoire de la musique, c'est un problème bien plus profond. C'est un problème de rapport à l'art et à la vie actuelle. C'est ça le problème, parce que l'art, c'est le lien entre les gens. Et sans lien entre les gens, tu n'as plus d'histoire. Et sans histoire, tu n'es plus rien. Je fais partie du cercle qui organise les concerts à la médiathèque de Charleroi. Encore un truc essentiel en région wallonne, la médiathèque, c'est un truc essentiel. C'est 300 000 références, c'est mondialement, c'est comme la bibliothèque du Congrès à New York, quoi. Ouais, à Washington. Ouais. La médiathèque est en train de péricliter de façon, de nouveau encore à cause d'Internet, alors que la médiathèque faisait ce lien entre les artistes et l'art et la personne physique qui se déplaçait pour aller à la médiathèque. Mais de nouveau, on perd ce lien. Le directeur et le sous-directeur, qui sont des amis à moi, donc on organise des concerts. Pour le moment, moi, le magasin est petit, ça ne va pas. Donc, on a organisé au Vecteur ou au Bar à Bière, à l'Heureux, et des choses comme ça. Mais on a fait des choses magnifiques. Et à chaque fois que je vais voir les artistes jouer, je leur dis, je suis là pas seulement pour vous écouter, je suis disquaire, je vais acheter vos choses pour les promouvoir dans le magasin. Je veux dire, le vinyle d'occasion, c'est un truc vraiment hyper passionnant, quoi. C'est incroyable. Il y a des gens qui viennent m'aider ici. Au début, ils sont pas très... tu vois, ils se disent, bah, ouais, c'est un travail de fou, c'est lourd et tout ça. Mais je vois bien qu'ils sont pris au jeu à la vitesse de l'éclair. C'est incroyable, quoi. J'ai même plus besoin de leur demander de venir, quoi. Ils sont à l'avance. Ils m'engueulent quand je suis... tu vois, parce que t'es pris au jeu. C'est toujours ce travail de classement, de rangement, d'études qui fait la différence. Dans mon métier, c'est ça. En IFI, c'est la même chose. C'est de nouveau ce travail de nettoyage, de classement, de rangement, d'écoute permanente qui fera la différence avec quelqu'un d'autre. Tous mes appareils sont vendus à l'oreille. Je suis un vrai... pourquoi ? Parce que bon, voilà, moi, j'ai de la chance, je suis passionné. Je n'ai même pas à me forcer, je n'ai même pas la pression de travailler. C'est un disque qui est mint, donc ça veut dire mint en anglais, c'est tu vois ce que je dis, un touché presque neuf, quoi. Near mint, ça veut dire presque neuf. C'est un disque qui, pour le moment, il n'y en a qu'un sur Discogs à 600 euros dans le monde entier. Tu penses bien que ça fait 40 ans que j'étudie la musique, maintenant je dois avoir commencé à 12 ans, j'en ai 52, donc ça fait pile poil 40 ans. Et ma période à moi, c'est les années 80. Les années 80 m'ont fait découvrir la musique. Et plus tu grattes les années 80, plus tu te rends compte que c'est exceptionnel. Il a commencé à avoir des très grands de la musique alternative, mais en très grand nombre, pour la première fois. C'est vraiment dans les années 80 où l'explosion musicale, fin des années 70, début des années 80, a été tellement importante que, en fait, on se perd. Il y en a tellement qu'on se perd dans le truc. C'est surtout ça le problème. Et que quand, avec le temps, tu arrives à décanter, et tu te rends compte qu'il y a des choses vraiment... Je pourrais t'en citer 10 000. Il y a des groupes italiens de New Wave, par exemple, des années 70. Enfin, des années 70. Il y a un groupe qui s'appelle Chinese Restaurant, par exemple. Tu écoutes ce truc, tu ne peux pas résister. C'est impossible. Je suis un historien, c'est tout. Même pas spécialisé, même... Je suis un bête, petit, modeste historien, et c'est tout. C'est aussi modeste que ça, c'est que quand je vois des gens qui s'y connaissent beaucoup plus que moi, mais comme j'ai cette façon de voir les choses, je vais toujours essayer de leur gratter des trucs essentiels, quoi. Tu vois, et Chinese Restaurant, j'étais comment ? J'étais dans un grand salon en Allemagne, et j'ai vu passer Philippe Collignon de Namur, qui est une des sommités belges de la vente du vinyle, hein. Ça s'appelle Music Emporium sur Discogs. Il n'a plus de magasin à Namur. C'était le disqueur historique de Namur, mais de nouveau, il est parti. J'ai vu Philippe Collignon parler, évidemment, on est amis. Et Philippe m'a dit, Philippe, viens voir, il y a des rééditions italiennes splendides là-bas. Il y a des trucs des années 80 et 70 qui n'ont jamais été réédités. Les originaux coûtent 250-300 euros. Il faut absolument que tu écoutes ça. Ben, je l'écoute. Je prends un petit budget, je m'en vais, j'achète une dizaine de trucs en double. Ben, le Chinese Restaurant, j'en ai même plus pour moi. Hein. J'en avais acheté 3-4, c'est terminé. Oui, je fais des cassettes. Et surtout, je, grâce à mon labo technique à Jumet et à quelques labos techniques encore plus vieux, il y a un monsieur qui s'appelle Harold qui a été un des grands réparateurs de bandes et de cassettes à Bruxelles. On a un circuit comme ça de vieux réparateurs. Et parce que c'est les deux choses les plus difficiles à mettre en œuvre en hi-fi, c'est la bande et le deck cassette. C'est souvent ce qu'il y a de meilleur. C'est qu'en fait, avant le vinyle, vient la bande. Parce que tous les masters importants des années 50, 60, 80 sont des bandes masters. Donc, faut pas être... Si les ingénieurs de l'époque ont trouvé que de cette bande-là, on savait produire un master pour produire un vinyle, faut pas se demander la qualité qu'il pouvait y avoir là-dedans. Et en fait, il y a quasiment, dans les grosses bandes professionnelles, il n'y a quasiment aucune limite physique à l'enregistrement. C'est que... Donc, ils l'ont bien compris à l'époque, ils n'avaient pas à calculer ni à faire des calculs savants comme pour le CD ou la musique numérique, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'à l'oreille, il n'y a pas de limite physique, comme un instrument de musique n'a pas de limite physique dans les harmoniques, etc., dans le grave ou dans les basses ou dans les aigus, il n'y a pas de limite physique. Donc avec la bande, si on arrive à faire un vinyle, si toi, tu fais des bandes dans de bonnes conditions, tu refais un master d'origine, quoi. Je passe le temps à archiver des choses. Pour moi, pour les gens qui se, et surtout pour garder une trace, pour pouvoir conseiller de nouveau les gens. C'est-à-dire que moi, je suis un passionné de Dick Rivers depuis 30 ans, comme Philippe en bas. C'est bien. Et tous les disquaires s'appellent Philippe à Charleroi, c'est vraiment marrant. C'est vraiment dingue, ça ne s'invente pas. Tous, et même à Namur, parce que Philippe Cognon... Donc, en fait, dans un rayon de 50 bornes, je crois que tous les disquaires s'appellent Philippe. C'est vraiment incroyable. Et tous, ça prend à peu près le même âge, entre 50 et une soixantaine d'années. C'est vraiment dingue, c'est vraiment propre à notre génération. Oui, moi, j'étais fan de Dick Rivers, mais c'est très dur à trouver en très bon état, quoi. Parce que Dick, d'abord, c'est contrairement à ce qu'on croit, c'est comme Gainsbourg, ça n'a pas été vendu. Dick, ça a toujours été un second couteau. Comme Gainsbourg, tu sais, Gainsbourg, on aura beau dire ce qu'on veut, c'est un second couteau de la chanson française. Hein. C'est pas Adamo, c'est pas Claude François, tu vois, c'est un second couteau. Hein. C'est de nouveau toujours un musicien pour musicien ou de nouveau un mec qui a été écouté par les gens qui écoutent de la musique alternative. C'est seulement dans les années 80 où de nouveau il y a eu cette explosion reggae ou beat ou disco. Où il est redevenu un peu au devant de la scène, mais sinon, c'est comme ça. Donc, Dick, c'est la même chose. Dick a été encensé, has-been, toute sa vie, d'où le fait que, au moment où il était encensé, ça partait un tout petit peu. Donc, il y a les premiers 45 tours mono, mais qui datent maintenant des années 60, qui sonnent, mais alors là... Ça, moi, je les enregistre et je stocke des cassettes pour moi, tu vois. Alors, quand les trucs que j'adore vraiment, ça, je garde pour moi. Les Dick Mono, par exemple, je les ai gardés pour moi parce qu'on en trouve déjà tellement peu. Et moi, j'étais tellement frustré depuis 30 ans de ne pas les trouver, mais que maintenant que je les trouve grâce au magasin, que j'en ai gardé. Bon, j'ai déjà des doubles. Hein. Et puis, le 45 tours, c'est quand même très contraignant, quoi. Si tu fais pas de cassettes... Bien sûr, la bande en général, c'est une fiabilité exceptionnelle. Les platines, c'est le truc qui coûte le plus cher après à mettre en œuvre, après les decks et les bandes, parce que ça marie l'électronique et la mécanique de précision, les deux. Chose que font très peu après le restant des appareils. Plus la musique avance vers la musique dématérialisée, plus on enlève ce côté mécanique qui coûte très très cher. Tu vois, parce que les premières platines sont fabriquées en Suisse, en Angleterre. Pourquoi ? En Allemagne. Parce qu'il fallait des horlogers, c'est aussi con que ça, pour mettre au point le temps de défilement. Les Linkos et Made in Switzerland, si tu ne fais pas le lien entre les coucous et les montres, et la mécanique, les montres anglaises et les premières platines anglaises, c'est parce qu'il fallait des ingénieurs capables de mettre au point... En fusion, la musique et le temps de reproduction, la même chose avec les bandes. Il fallait des ingénieurs, tu vois, et des mécaniciens, surtout des mécaniciens capables de mettre en route, puisque c'est de la mécanique, en fait, pure. Donc, c'est toujours le même problème. Maintenant, il faut retrouver ces mécaniciens. Mais quand tu tombes sur un appareil en très bon état et qui fonctionne, tu obtiens des choses fabuleuses. Ouais, le recrit, les petites productions du recrit, c'est vraiment génial, quoi. Tu peux y aller. Il y a un disque belge essentiel qui a été présenté au recrit. C'est des voisins à moi, le Verval, qui faisaient de la musique expérimentale, du psyché rock expérimental, mais improvisé à l'époque. Ça s'appelle... Cosmos. Et ça, c'est de nouveau un petit label belge, tu vois. Et tu vois, Charleroi, 1973-1978, c'est de nouveau un passionné qui a retrouvé les bandes. Donc, un des membres du groupe qui est passionné par l'histoire de la musique, qui a retrouvé les bandes un peu collées, qui les a fait restaurer grâce à l'aide d'un vieux monsieur. Il les a décollées petit à petit. Et puis, ils ont fait une restauration vraiment minutieuse des bandes. Et c'est un label vraiment chouette de belge, de nouveau, hein, totalement. Voilà, Sub Rosa. C'est un label assez connu, mais qui n'édite que de la musique alternative, c'est-à-dire du free jazz, de beaucoup de musique électronique. Et de nouveau, dans une démarche, c'est pas du tout commercial, quoi. C'est vraiment une démarche. Ils ont vraiment une démarche d'historien, là. De diffusion de musique alternative En fait, c'est d'un niveau exceptionnel. Moi qui écoutais énormément de free jazz, je peux te dire que c'est du niveau des grands albums de free jazz, quoi. C'est exceptionnel de savoir qu'à Charleroi, ça s'est joué à Marchienne au pont. Les photos, tout est magnifique, c'est vraiment... Cosmos, Cosmis Music from Black Country, sur le label Sub Rosa. Thank you.
Rencontre à Mons avec Johan à la boutique Alive Records.
Je suis des années 90, hein, donc c'est CD. Donc j'ai une grosse collection de CD. Et il y a 3 ans, je me suis mis, 3-4 ans quand même, je me suis mis au vinyle. Et mais moi, la passion, c'est la musique. Moi, si c'était le retour des cassettes, bah, j'aurais fait les cassettes, quoi, par exemple. Enfin, voilà, j'ai pas, c'est l'amour de la musique, j'ai pas, c'est pas l'objet qui m'intéresse, même si effectivement, le vinyle, il y a la pochette qui est jolie et qu'on peut encadrer tout le bazar. Mais enfin, moi, c'est pas parce qu'une pochette est jolie que je vais acheter le vinyle. C'est vraiment la musique qui m'intéresse. Et j'ai commencé à écouter, en fait, du métal. J'étais plus avec ces métal, etc. Puis je me suis intéressé à l'électro au début des années 2000 avec Aphex Twin, des choses comme ça, avec le label Warp. Et puis voilà, j'en suis venu à la pop, tout ce qui est Algie, effectivement Animal Collective, des chants qui j'aime beaucoup aussi. Ce que Mike Patton fait, voilà, il navigue un peu entre metal, trip-hop, pop. Là, son projet Neverman avec TBM de Radio est vraiment pas mal aussi. Quand je suis sorti de mes études d'éduc, j'avais ce projet de faire ça en fait avec un ami qui lui était à fond dans les mangas et on voulait faire un truc ensemble. Et puis la vie fait que ben faut travailler, faut trouver des sous, c'est pas facile quand on sort de l'école, on a pas d'argent derrière nous, etc. On se marie, on a un enfant, enfin, la vie quoi. Ça faisait son petit bonhomme de chemin depuis un petit bout de temps. Et donc du coup je me suis dit voilà, j'ai 34 ans, je me lance quoi, c'est pas à 50 ans que je vais encore le faire. Et donc voilà, mes amis m'ont supporté. Heureusement que j'ai eu plein d'amis, voilà, des amis graphistes qui m'ont aidé à faire les graphismes. Donc j'ai eu d'aide de toutes parts parce que tous mes potes ont trouvé le projet vraiment sympa. Donc ils sont venus peindre avec moi, on a monté les bacs ensemble. Le compteur, je l'ai fait moi-même avec un pote. C'est des super aides quoi. Sinon, sans ça, j'aurais pas pu monter le magasin clairement quoi. Oui, effectivement, quand j'ai ouvert, tout le monde a dit ah, c'est formidable. Quand j'ai fait la porte ouverte, donc il y avait. J'ai dû avoir 300 personnes, quelque chose comme ça. Mais bon, en même temps, j'avais fait tout un live aussi, il y avait des DJ, il y avait un live, etc. dans le magasin. Et ça amenait des gens, donc voilà, moi c'était vraiment mon projet, hein. C'était de faire le salon d'écoute, faire des concerts dans le magasin, c'était de faire vivre le magasin. C'était mon projet, depuis des années, c'était ce que je voulais faire. C'était pas simplement vendre, tiens, voilà ton vinyle, au revoir et merci, quoi. C'était avoir retourné comme avant, quoi. Quand on va, c'est vrai, quand j'étais jeune, j'allais au magasin de musique quand j'avais 15 ans, on discutait avec les disquaires, ils disaient, tiens, tu connais un nouveau Sepultura, tiens, va écouter le nouveau Fear Factory, enfin, voilà, ce genre de choses, quoi. Je voulais revenir à ça et puis aller sur, voilà, sur Amazon ou même dans les Fnac où c'est super impersonnel, il n'y a aucun. Même les commandes, en fait, parce qu'ici, on peut faire des commandes, on peut dire, est-ce que tu sais avoir ça, tu sais avoir ça. Ce qui est de moins en moins le cas dans les grosses. Maintenant, je respecte aussi ce genre de choses, vu qu'à la FNAC, il y a quand même des gens qui s'y connaissent en musique, ça je le sais bien, hein, vu qu'avant, j'allais aussi dans ce genre de commerce. Mais voilà, rien à voir avec un Music Mania, par exemple, à Gand, où là, c'est la mec, quoi. Je veux dire, c'est top, quoi. Ah, c'est un truc de. Ben voilà, ici, j'ai. Ça, c'est chouette, il y a des gens qui vivent à Mons depuis très longtemps, dont Robin Soupsi, qui sont des DJ un peu underground, comme ça, maintenant, il a 40 ans, il arrête un peu. Et voilà, il vient, il me dit, ça nous manque vraiment, en fait, un lieu de rencontre. Et moi, donc, j'ai des amis qui fait ce genre de choses. J'ai un autre artiste de la région qui s'appelle Trolux, qui fait des choses sur Bruxelles et sur Mons, qui fait des collages essentiellement dans la rue. Et en fait, ils se sont rencontrés dans le magasin, en fait. Donc maintenant, Rob il va produire des vinyles. Il a demandé à Julien et à Trolux de faire des pochettes de vinyles. Et il dit, voilà, grâce à toi, bah, finalement, on se rencontre aussi. Donc c'est un lieu de voilà, genre Toudi qui est venu et alors ses amis qui sont venus faire des expos, bah, voilà, c'est chouette d'avoir ce genre de lieu où on peut faire un lieu culturel vivant, quoi. Maintenant, effectivement, je savais que ça allait plaire aux gens, le fait d'avoir un disquaire qui revienne, etc. Alors, encore une fois, la musique pointue, ça reste quand même. C'est limité. Je veux dire, voilà, les gens, quand ils pensent à vinyle, ils pensent à vintage, ils pensent à ancien, ils pensent pas forcément à musique nouvelle, ils pensent pas forcément à faire la démarche à être curieux. C'est plus ce que t'as du Pink Floyd, est-ce que t'as du Beatles, est-ce que t'as du Rolling Stone, est-ce que ce genre de choses. Il y a des gens qui en achètent de nouveautés, c'est pas ça, hein, qui me demandent des conseils, mais je me rends compte, c'est pas l'essentiel du public, quoi. C'est vraiment ce côté trouver la petite perle des collectionneurs. Et je pense qu'ici, dans la région, c'est essentiellement ça. C'est cette collection de vinyles qui se fait de plus en plus avec Discogs, etc. Où on arrive maintenant à presque un produit de luxe, quoi, finalement. Et c'est vrai qu'un vinyle neuf, bah, c'est pas donné, quoi. Et voilà, maintenant, je pense que les majors se tirent aussi la balle dans le pied en mettant des prix. Bah, pas forcément démocratique. Il y a de tout, hein. Ça va de 16, je vais dire, à 60, 70 ans, quoi. Maintenant, les jeunes qui viennent, c'est Alors c'est drôle parce qu'ils voient les... ben, ils peuvent pas se le permettre en fait d'acheter genre le dernier Gojira par exemple, les choses comme ça qui sont quand même à 34 euros ou 30 euros, voilà. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est acheter plus des choses dont ils sont sûrs. Donc par exemple un Radiohead, ils sont sûrs qu'ils vont écouter parce que c'est une valeur sûre. Un Muse, ben, pour eux, hein, voilà, maintenant c'est chacun ses goûts, mais des choses sûres quoi. On va dire un vieux Pink Floyd, effectivement les jeunes de 18 ans, c'est beaucoup du Led Zeppelin qu'ils recherchent. Mais voilà, c'est vraiment essentiellement ce genre de choses. J'ai un client régulier dont ses enfants sont amoureux du vinyle, mais que pour Led Zeppelin et les Pink Floyd. Et oh, les nouvelles musiques, c'est que de la merde. Il dit, mais enfin, moi, j'écoute plus. Il a 65 ans, ce client. Il dit, j'écoute plus de musique actuelle que mes petits-enfants, finalement. Et il dit, bah, avant, il y avait de la musique, entre guillemets, de merde aussi, mais on n'en parlait pas. On n'en parle plus, en tout cas. Enfin, voilà, moi, avant, j'écoutais... Radio 21, qui s'est séparé avec Pure FM, avec Classique 21, des émissions comme Pompon, etc. Voilà, il faut être à 11h du soir, écouter sa radio. Enfin, moi, je me souviens qu'à Radio 21, où maintenant, j'avais plus vite tendance à aller écouter un Studio Brussels, où on va passer un Clash, après un Rihanna, même si c'est pas mon truc, mais après un Tool, et puis on va passer un Daft Punk, et on mélange, on fait un espèce de... Voilà, et c'est bien, parce que ça... Ça. Maintenant, on va écouter Pure FM, on va écouter du The Voice finalement, quoi. Ça va être ça, quoi. Il n'y a pas qu'une raison. Il y a un peu de tout. Il y a le fait qu'il y a Spotify, il y a Deezer, il y a cette musique consommable et un peu ce fast-food niveau, enfin, façon musicale. Et puis, on ne s'attarde plus. À la limite, je discutais de ça avec un ami, il me dit oh, c'est à cause du téléchargement. Mais je préfère que quelqu'un aille télécharger un album parce que ça veut dire qu'il va s'intéresser à l'album. Il va l'écouter en entier. Plutôt que finalement, il va aller sur Spotify, il va écouter un morceau, puis on va lui proposer un autre morceau, et jamais il va écouter l'album en entier, en fait. Donc, il va jamais savoir finalement ce que l'artiste raconte. Ou alors, il faut vraiment qu'il fasse la démarche. Enfin voilà, on en a tous déjà été chipotés à Deezer, Spotify, des choses comme ça. On sait tous comment c'est fait, on propose, puis on rentre dans une case où on ne propose plus que ce style-là. Il n'y a plus aucun intérêt à... Si on aime bien les Pixies, ben on aura des trucs qui tournent autour des Pixies, point barre, quoi. Je veux dire, à part ça, on va pas avoir justement un Aphex Twin ou un Flying Lotus qui sort de nulle part comme ça et qui peut-être va nous plaire, mais... Mais donc, je pense qu'il n'y a pas qu'une raison. Il y a effectivement ce qu'on donne à manger aux gens, c'est facile, c'est consommable, c'est du The Voice. Et puis voilà, et les gens sont tout bien gentils, ils sont dans leur case, et voilà. Oui, le manque de curiosité, je pense, quand je remarque les Flamands, ils ont un esprit anglo-saxon, ils ont cette espèce de découverte d'aller vers quelque chose qui va les enrichir. Ici, on reste à sa place, on va pas vers, on reste quoi. L'événement qui a vraiment bien marché, donc c'est l'hommage à Bowie, mais là on va dire que c'était pour Bowie, donc c'est assez spécifique. J'avais fait des covers, il y avait une conférence avec quelqu'un qui écrit une préface d'un bouquin, etc. Et à côté de ça, il y avait Toody, qui est un rappeur du coin. Il avait fait un espèce d'happening avec d'autres gens qui font du graphe, des vêtements, etc. Là, effectivement, j'ai eu autour de 120 personnes, donc c'était vraiment bien. Mais maintenant, il y avait trois artistes qui cohabitaient dans le truc. Il y avait un DJ. Franchement, c'est vrai que... Mais du coup, ça ramenait un public qui n'est pas habituel dans les disquaires. Donc, sans avoir de préjugés, c'était les petits à casquettes, quoi. Les petits rappeurs. Ah, tiens, je m'attendais à ce que ce soit uniquement métal ou uniquement électro. Bah non, on a trouvé du Wu-Tang Clan. On s'attendait pas à trouver du Wu-Tang Clan, par exemple. Enfin, voilà. Juste comme ça. Et à côté de ça, maintenant, j'ai fait d'autres concerts plus intimistes. Où là, c'est les gens qui connaissaient déjà. Et... Il y a ce manque de curiosité, clairement, donc c'est gratuit avec mes concerts ici. C'est à 19h, donc c'est généralement après que les gens ont travaillé, enfin voilà, ou c'est le samedi. Mais le fait est que quand Hermétique Électrique est venu, il y avait 20 personnes, bah, tournait, là j'ai eu le magasin à peu près rempli, mais voilà, c'était des gens qui connaissaient, qui étaient un peu curieux, qui, moi je faisais la pub, etc., qui sont venus un petit peu, mais on va dire... Pas 10% de personnes qui sont venues vraiment par curiosité. Bon, c'est déjà ça de gagner, hein, mais maintenant c'est le début. Et je me suis dit, en fait, ce qui serait plus intéressant, parce que j'ai vu qu'à finalement à l'hommage à Bowie, c'est ça qui avait bien fonctionné, c'est que j'avais 4 groupes de covers et les gens étaient venus pour voir l'un. Et en fait, du coup, ça mélangeait les gens. Et donc, je pense qu'au lieu de faire un concert, c'est mieux de faire 2 ou 3 concerts sur une après-midi où les gens vont venir voir un concert, mais ils vont voir un autre. Et il y aura un mélange culturel et on vient pas voir qu'un truc, on va voir plusieurs trucs et bah comme un petit festival quoi, un truc de découverte parce que finalement on paye sa place pour aller voir des gros groupes mais gratuitement, à la limite on va moins vite quoi, des choses gratuites quoi, bizarrement. Ça devient de pire en pire. Non, vraiment, là l'Alhambra, c'est parce qu'ils ont eu des subsides à Mons 2015, moi j'étais à plusieurs fois à des concerts, etc. C'était super mort quoi. super, super mort. Non, non, malheureusement, il y avait le bateau ivre qui faisait plein de concerts, et le café Tarmètre. Ouais, non, ça, c'est dur par ici. Ouais, mais là, on est plus sur de la musique... musique FM, quoi. Du truc où on se bourre la gueule au marché... marcher aux herbes ici à Mons, et puis on se bat, et puis on rentre dans son code, quoi. Mais, non, mais vraiment, enfin... Ouais, c'est comme ça, quoi. Il y a plus de choses qui bougent. Enfin, moi, j'organise aussi un festival d'économie électronique, où j'ai une... Enfin, voilà, c'est vraiment la musique électro, pour le coup. Il y a une scène drum et une scène électro. Et la scène drum, j'ai beaucoup de gens qui viennent de Namur, qui viennent de Liège. Et j'ai l'impression que par là, ils s'intéressent plus. Bon, maintenant, c'est un style aussi, hein, la drum and bass, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a d'autant plus de choses quand c'est des petits villages, des petits trucs, des petites bourgades où il faut rien. Bon, allez, on bouge, les gars, on se fait des trucs. Qu'ici, bon, on n'est pas loin, il y a des cafés. Bon, voilà, on cherche pas plus, quoi. Voilà, encore une fois, on mange ce qu'on nous donne. Et on va pas chercher plus loin. Les collines électroniques. J'organise avec cette pote, ouais, du côté de Fresnes-lès-en-Vin, c'est entre AT tournée en fait. Donc c'est la troisième année, il y a une scène, une grande scène techno, mais c'est pas la techno femme, hein, on est plus sur la musique berlinoise, des choses comme ça. Une scène dubstep et drum and bass, et ici cette année on va faire une scène électropunk avec que du live, avec Das Pathetic, Mister Thanos, il y aura Raoult, voilà, DJ Putassier, des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Et donc voilà, quoi, on veut faire ça entre potes, une petite entrée à 12 balles, pas trop chère, dans les champs, avec une petite déco bien sympathique, faite d'ailleurs par mon super pote qui a fait avec moi justement la déco du magasin. Et donc voilà, c'est parti d'un délire, en fait, hein, une soirée un petit peu trop arrosée, où on se plaignait justement de la musique qu'on avait dans notre coin. On s'est dit, bah voilà, il faudrait qu'on fasse notre festival, et puis finalement, on en a fait un, vraiment. Et donc voilà, chacun a son petit poste, moi je m'occupe du line-up, il y en a un qui s'occupe de la sécurité, et puis la première année on a eu 800 personnes, l'année passée 1300, et ici on attend peut-être 2000 personnes en fait. Ça manquait dans le coin, veut dire, nous les gens, encore une fois, on doit aller soit en Flandre, parce que Fresnes-lès-en-Vin, c'est pas loin de Rennes, c'est pas loin de Gand. Les gens vont à Gand ou vont à Bruxelles, c'est pas très loin non plus. Mais attendant, voilà, notre coin, c'est musique art-tech, jump, machin, enfin voilà. Il y avait clairement un public dans le coin qui disait, ça nous manque de voilà, il n'y avait jamais eu de soirée drum and bass, par exemple. Et donc on s'est dit, bon, là, il y a quelque chose à faire, on a envie de se faire plaisir. Et puis voilà, quoi, le public répond du présent. Et l'année passée, on a eu Surfing Leon, on a eu Pierre, on a eu Dev Protocol qui fait la drum and bass. Et puis on met surtout en avant aussi les DJ du coin, quoi. Donc des gens qui ont envie d'être connus. L'année passée, on a fait une petite scène avec que des gens, des gens de 20 ans qui commencent à mixer ce genre de musique. Je reviens avec les DJ qui viennent de Namur, du côté des Ardennes, quoi. Où en fait, je pense que c'est dans les petits villages où il se passe rien. Les gens ont envie de bouger et créer quelque chose et faire en sorte que ça bouge. Et moi, personnellement, j'ai l'impression qu'à Wallonie, c'est plus dans les petits bleds où ça bouge que plutôt dans les... Que au centre même de Namur ou au centre même de Mons, où voilà, il y a des cafés, il y a de la musique poète qui passe et on est bien content avec ça. Alors ça amènera, c'est un groupe de post-hardcore. C'est très lent, c'est une ambiance très lourde, ça gueule beaucoup. Mais c'est des riffs très très lents, c'est des riffs qui cisaillent pas mal. Et voilà, c'est un groupe qui marche vraiment. Ils ont signé sur le label de Neurosis, qui est le groupe un peu culte de ce post-hardcore, ils viennent d'Anvers. Et donc voilà, ils sont à la limite plus connus à l'extérieur de Belgique. En Belgique aussi, ils sont vraiment connus, hein, mais alors ils sont surtout réputés aussi pour faire des concerts dans des églises, dans des bois, dans des lieux un petit peu insolites comme ça, pour justement avoir une ambiance particulière, etc. Voilà. Quand j'écoute un album, il y a des titres qui ressortent, mais c'est une ambiance. Et je veux dire, l'album Mass 3, c'est une continuité, donc c'est 6 titres, donc c'est pas très long, c'est une demi-heure, voilà. Et moi, je conseille surtout cet album-là, Mass 3, qui est juste vraiment pour rentrer dans l'univers d'Amen Ra et avoir un concert, quoi. Alors, c'est Amen Ra, la fille des faux. We'll be right back.
Thank you and good night.
Rectangle.
C'était le Rectangle Store Day. Je vous donne rendez-vous pour la suite du programme de cette semaine belge sur le site de Radio Rectangle. À très bientôt.